Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions. D'ailleurs, c'est la première fois que vous vous exprimez ce matin dans une interview depuis votre annonce de candidature la semaine dernière aux 20h. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste, vous êtes député de Seine-et-Marne et vous êtes candidat à l'élection présidentielle via la primaire socialiste. Beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord, je voudrais savoir si vous connaissez l'expression en anglais « an elephant in the room ». Ça vous dit quelque chose ?
Oui, bien sûr.
Hein, c'est littéralement un bon gros éléphant qui est au milieu de la pièce, qui est absolument omniprésent, mais dont personne ne parle. Ça vous dit quelque chose ?
À qui pensez-vous ?
Est-ce qu'il n'y a pas un éléphant dans la pièce, là ? Quelqu'un qui serait omniprésent et dont vous faites tous semblant de ne pas voir qu'il est là ?
Je le vois.
Oui, vous le voyez. Et il prend de la place.
Il prend sa place et il a choisi un autre chemin qui n'est pas le mien. Son chemin est celui d'une alternative plutôt au centre, pour ne pas dire à droite. Et moi, je ne me suis pas engagé au Parti Socialiste pour...
Maintenant, a tous compris que vous parliez de François Hollande.
Mais je vais peut-être faire ma phrase, vous dire que...
Et vous dites qu'il est de droite?
Non, j'ai dit qu'il cherchait, en fait, aujourd'hui, sa voie avec une alliance entre droits. Et moi, je ne me suis pas engagé au Parti Socialiste pour appliquer, 14 ans après, le programme de François Fillon.
Là, vous parlez sans doute de la TVA sociale?
Par exemple, oui, je ne suis pas sûr que prendre l'impôt le plus injuste comme référence, ce soit la bonne façon d'entrer dans le débat.
Alors reprenons les choses dans le bon sens, parce qu'évidemment, je m'amusais avec vous sur cette expression anglaise, mais parce que j'en voyais pas d'autres. Littéralement, de fait, un éléphant, c'est aussi un membre du Parti Socialiste. Historiquement, c'est comme ça qu'on les appelait. Au fond, depuis que vous vous êtes vraiment lancé dans cette campagne, à la fois vous, Raphaël Glucksmann, dans cette campagne de la primaire, il y a François Hollande qui prend en effet toute la place, qui est en campagne sans le dire, qui fait des propositions, qui lance un livre, qui donne des interviews, comme si la primaire n'existait pas.
Il a fait ce choix, ce n'est pas le mien, vous le savez, moi j'ai fait un choix qui est un choix démocratique. J'ai voulu cette primaire, j'ai voulu qu'elle ait lieu, parce qu'il n'y a rien de pire que les primaires sauvages. Regardez ce qui se passe à droite, des candidats qui se multiplient sans que personne ne connaisse le terme et le moment où ils sont capables peut-être de se mettre d'accord pour avoir un seul candidat. Et donc la primaire, elle a cette vocation-là, permettre à un camp politique de dire oui, il y a des différences, oui, il peut y avoir même des divergences entre les candidats, mais elles sont tranchées par des électrices et des électeurs, et j'appelle toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans nos combats à nous rejoindre en allant sur le site du Parti Socialiste et à s'inscrire pour cette primaire et faire en sorte que le plus grand nombre puisse y venir et donner une légitimité très forte à celui ou celle qui sera finalement élu.
On va revenir sur ce que vous appelez les différences, voire les divergences avec les autres, mais puisque vous répondiez immédiatement à propos de François Hollande que, semble-t-il, il prenait des décisions qui rappelaient les programmes de François Fillon, vous faites donc référence à cette proposition de François Hollande, il parle d'une TVA qu'il passerait de 20 à 24%. Et en échange, une TVA à zéro sur un certain nombre de produits de première nécessité. Pour vous, ça, c'est une mesure de droite ?
Je ne vais pas la qualifier. Je vais dire simplement que c'est une mesure dont on sait qu'elle est en réalité nocive pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Pourquoi ? Parce que si vous baissez la TVA à 0%, y compris sur les produits de première nécessité, qui sont pour l'instant autour de 5,5, eh bien, la réalité, c'est que ce sera très vite rattrapé et que ce seront les marges des entreprises que vous réaliserez à travers cette TVA qui aura baissé, mais que ça n'aura pas de conséquences sur les consommateurs. Et moi, je préférerais qu'on agisse autrement. Et surtout qu'on ne rattrape pas cette baisse de TVA chez les uns en faisant en sorte qu'elle est en fait qu'elle soit
officiellement
4 points de
François
plus
Hollande,
sur la TVA.
Non seulement il a été président socialiste, mais il est toujours membre
ailleurs,
du Parti socialiste.
Oui, mais par ailleurs, moi je ne comprends pas cette logique qui n'est pas d'ailleurs exclusive à François Hollande, qui est de dire que désormais il faudrait que les salaires puissent augmenter simplement par un canal, celui de la baisse des cotisations. C'est ça l'objectif au départ, c'est de dire on va faire baisser les cotisations. Mais les cotisations,
et
c'est quoi ?
Compensé donc par cette hausse de TVA.
Voilà. Et c'est quoi les cotisations ? Les cotisations, c'est tout simplement ce qu'on appelle le salaire différé. C'est quand vous avez un accident du travail, c'est quand vous êtes malade, c'est quand vous êtes à la retraite. Cet argent-là, il ne sert pas à rien. C'est pas de l'argent qui vous est prélevé pour jamais. C'est de l'argent qui vous est préservé soit pour vous garantir contre les difficultés, les accidents de l'histoire, de votre existence, ou au contraire, permettre votre départ à la retraite dans de bonnes conditions.
Mais comment vous ferez-vous pour augmenter les salaires des Français ?
Tout simplement, la première chose, c'est que, en fait, regardez ce qui se passe sur le partage de ce qu'on appelle la plus-value depuis des années et des années. Aujourd'hui, le capital engrange essentiellement et les salariés ont la part la plus modeste. Eh bien, moi, je souhaite que, par exemple, quand on distribue 1 euro de dividende, eh bien, il y a au moins 1 euro qui est reversé aux salariés. Que ce soit équitable. Parce qu'il n'y a pas de raison particulière de penser que le capital doit se servir.
Ça veut dire que ce serait une sorte de participation?
Bah, participation, intéressement, salaire.
Et donc, 1 euro pour les actionnaires, 1 euro pour les salariés.
Absolument. Il n'y a aucune raison que ce partage-là ne soit pas équitable. Et donc, voilà une première solution. Je souhaite que le SMIC soit augmenté. Parce que vous le savez très bien, depuis les Gilets jaunes, et bien avant les Gilets jaunes, on le sait bien, aujourd'hui, travailler au SMIC, parfois même à temps partiel, ça ne permet pas de vivre. Et donc, tous ces gens qui sont à un moment révoltés pour dire « on travaille, mais on ne peut même pas vivre. Comment voulez-vous que l'on fasse ?» Eh bien, moi, je crois qu'effectivement, il faut augmenter le SMIC. Il faut faire en sorte aussi qu'au-dessus du SMIC, il y ait une conférence salariale. Vous savez que il y a eu un rapport sénatorial qui dit qu'il y a 211 milliards d'euros de cadeaux, enfin, ou d'aide, pardon, d'aide aux entreprises versées chaque année. Eh bien, qu'il y ait une conférence tripartite, patronat, syndicat, État, au cours de laquelle on vienne conditionner les aides aux entreprises à des efforts sur les salaires, sur la formation, sur l'emploi, faire en sorte qu'il y ait à un moment une forme de contrepartie qui soit donnée à ces aides qui sont des aides massives. Et à partir de là, on a de quoi effectivement faire en sorte que tout le monde puisse être augmenté parce que aujourd'hui, les Français ne vivent pas bien.
Vous parlez de l'augmentation du SMIC, vous parlez de l'augmentation des salaires et dans le même temps, vous demandez 15 euros à ceux qui veulent juste voter pour la primaire?
Non, moi, j'ai pas demandé 15 euros, j'ai dit 2 euros. J'ai malheureusement
vous avez
été...
perdu, quoi.
J'ai, voilà, comme vous le dites, on a eu un vote. Le vote a tranché pour 10 euros tarif social, 15 euros tarif normal. Et ce n'était pas mon point de vue parce que moi, je cherche au contraire à ce que nous ayons un espèce de game changer en mauvais français. C'est-à-dire que nous puissions, dans cette élection, dire qu'à un moment, il y a des centaines de milliers de gens qui se sont rassemblés et qui ont fait un choix.
2 euros, c'était le prix de la primaire socialiste de 2011 qui avait ensuite porté François Hollande au pouvoir. 15 euros, vous avez effectivement perdu la partie sur ce combat-là. Qui a insisté pour 15 euros? Il se murmure que c'est Raphaël Glucksmann qui était en faveur des 15 euros, vous des 2 euros. Ça dit quelque chose de votre vision de la gauche, de ceux qui doivent voter?
Ça dit quelque chose, bien sûr. Ça dit quelque chose parce que moi, je considère que... nous ne pouvons pas revenir à un vote censitaire. On ne peut pas faire un choix sociologique des gens qui peuvent voter et ceux qui ne peuvent pas voter. Donc j'espère que si d'autres nous entendent ce matin, ils feront peut-être le choix dans les prochains jours de dire effectivement on s'est trompé, on va baisser le tarif.
On peut revenir en arrière ?
Ah ben on peut toujours revenir en arrière.
Donc là en fait vous êtes en train de lancer un appel à Raphaël Glucksmann en disant renonce aux 15 euros, mettons-nous d'accord sur 2 euros.
Ah ben oui bien sûr, je souhaite qu'effectivement on puisse se mettre d'accord sur 2 euros. Mais
c'est encore possible donc.
C'est possible jusqu'au dernier jour, en réalité. Mais je ne le crois pas, parce que je suis revenu tout l'été sur cette question, en essayant de faire bouger les positions des uns et des autres.
Mais pourquoi ce tarif ?
Ben, je crois que c'était la volonté de dire qu'il fallait un engagement puissant et donc que ça supposait...
Mais est-ce que ça exclut une partie des gens qui voudraient voter, vous pensez ?
Ben, forcément. J'étais ce week-end à faire le tour des associations pour les forums de rentrée. Dans ma circonscription, et vous pouvez l'imaginer, nombre de ceux qui me soutiennent depuis longtemps veulent voter. Mais quand on leur dit que c'est 10 ou 15 euros, ils disent bah c'est beaucoup, parce que c'est la rentrée des classes, parce que il faut acheter des vêtements pour les enfants, les fournitures scolaires, il faut c'est la rentrée pour tout le monde, et donc c'est très compliqué de rajouter effectivement 10 ou 15 euros à ce qu'on a déjà acheté.
La question du tarif, la question de qui participe, on évoque le nom de Mathieu Pigasse ou de François Ruffin pour pouvoir y participer. Est-ce qu'ils ont pris attache avec vous en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste? Est-ce que vous savez s'ils commencent à essayer de recueillir des parrainages?
Alors, je ne vais pas entrer dans les détails sur les parrainages, parce que les parrainages s'appliquent uniquement pour les socialistes. Chaque parti a ses propres règles. Et donc, si François Ruffin était admis dans cette primaire, les règles d'admission seraient en réalité celles de son parti. Voilà, moi ce que j'ai dit...
Mathieu Pigasse, il n'a pas de parti. Est-ce qu'il pourrait quand même venir ?
Moi ce que j'ai dit aux uns et aux autres, c'est que pour ma part, je ne m'opposerai à aucun. Je souhaite que cette primaire, vous le savez, moi je souhaitais une primaire qui aille de Ruffin à Glucksmann, permettre que toute la gauche sociale
donc
et écologique
puisse se retrouver. Donc vous souhaitez que François Ruffin soit candidat, vous estimez que ça ferait que partie soit... de...
Oui, ça fait partie de la logique que je défends depuis longtemps. Il faut à la fin un seul candidat ou une seule candidate qui permette de représenter cet arc qui est un arc démocratique, social, écologique et qui permette d'avancer et de gagner
est-ce
cette élection présidentielle.
Est-ce que Mathieu Picasse est dans cet arc?
Ben, je le crois, oui.
Est-ce que vous savez s'il est vraiment tenté sincèrement et sérieusement par cette primaire?
Ça, vous lui poserez la question, mais il m'a pas dit s'il voulait y rentrer. Mais ce que je sais, c'est que si on me pose la question à moi, est-ce que je suis favorable à l'idée de bloquer à l'entrée de la boîte de nuit et faire videur celles et ceux qui veulent y rentrer? Réponse pour moi, c'est non. Je vous l'ai dit, moi je veux que le plus grand nombre puisse participer à la primaire comme électeur, et je souhaite qu'il n'y ait pas de barrage à l'entrée pour ceux qui veulent y rentrer.
Vous avez vos parrainages
comme candidat.
Vous avez vos
parrainages. Oui, mes parrainages.
Vous, c'est bon, ça y est.
Oui,
tout est officiel, vous avez le tampon, vous avez le...
Le tampon, ce sera le 15, mais enfin, effectivement, les parrainages, c'est fait.
C'est fait. Les débats, il y a eu débat sur les débats. Vous souhaitez le plus de candidats, le plus d'électeurs, le plus de débats?
Absolument. Je souhaite que... Vous savez, une présidentielle, ce n'est pas simplement un long fleuve tranquille et on n'est pas nommé président de la République. C'est une confrontation qu'il faut assumer, accepter. Il faut être dans le combat et défendre ses positions, défendre ce que l'on croit. Et donc, moi, je souhaite effectivement qu'il y ait trois débats, puisqu'il y a trois offres qui nous sont faites
dont
par votre
celle
chaîne,
de BFM
par TF1, LCI et par le service public. Et donc, je souhaite que dans cette à ces trois propositions, nous répondions favorablement et que le débat puisse avoir lieu et que nous puissions, y compris, défendre nos positions.
Qui rechigne ? Pardon, mais j'ai quand même l'impression qu'en creux, vous égrenez que, voilà, il y en a un qui a mis la barrière à 15 euros, c'était pas vous, c'était Raphaël Glucksmann. Il y en a un qui, semble-t-il, rechigne à débattre aussi souvent que nécessaire pour créer, effectivement, ce grand élan populaire que vous souhaitez, c'est Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qui se passe?
Vous poserez la question à l'intéressé. Moi, ce que je suis pas là pour commenter ce que dit ou fait Raphaël Glucksmann.
Mais il a peur de quelque chose, c'est ça?
Ce que je dis, en tout cas, c'est que personne ne devrait avoir peur du débat. Personne ne devrait avoir peur de la confrontation. Personne ne devrait avoir peur des électrices et des électeurs. Parce que de toute façon, pour gagner une présidentielle, il faut convaincre et il faut convaincre large. Et pour convaincre large, il faut d'abord convaincre sa propre famille politique.
Au-delà de la méthode, c'est quoi vos différences avec un Raphaël Glucksmann, avec une Ségolène Royal? Qu'est-ce qui vous distingue, vous, Olivier Faure?
J'espère que les débats permettront de mieux le définir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distinguer.
J'ai regardé, vous êtes pour l'ordre juste, c'est encore une expression de Ségolène Royal, ça veut dire quoi? Une France plus juste, vous dites?
J'ai une France plus juste et je sors un livre dans quelques jours.
Que personne n'est pour une France moins juste.
Mais écoutez, il y a des gens qui, en tout cas, font tout pour la rendre moins juste. Il y a des, quand vous écoutez ce que dit aujourd'hui la droite et l'extrême droite, je ne suis pas sûr que vous y trouviez là beaucoup d'arguments pour servir la justice. Quand ils sont là pour dire qu'il faut baisser les dépenses sociales, qu'il faut faire en sorte que d'en finir avec ce qui a été finalement le grand conquis du siècle précédent, la Sécu, franchement, je me dis que la justice, elle est totalement absente. Et moi, je défends, face au retour de la loi du plus fort, je défends la loi du plus juste. Voilà ce que je veux défendre dans cette élection. Faire en sorte que nous puissions être dans une situation où, à chaque fois que nous avons une décision à prendre, nous nous demandions quel est, en fait, le moyen de rendre la décision la plus juste possible. Et les sujets sont innombrables. Qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse de l'alimentation, qu'il s'agisse de tous les sujets qui font le quotidien des Français, eh bien, aujourd'hui, je le dis oui, notre pays n'est pas un pays qui vit exclusivement de la justice.
Vous voulez la taxe Zucman?
Bien sûr.
La voulez dès maintenant, dès le budget qui est en discussion?
Je sais que dans le budget qui vient, nous ne l'obtiendrons pas, puisque, en fait, il y a une opposition très forte.
Mais
de
l'année dernière, vous l'aviez pas obtenu,
droite.
Pour autant, vous n'aviez pas voté contre. Est-ce que cette fois-ci, ne l'obtenant pas, vous voterez contre?
Ma règle de vie, à Pauline de Malherbe, elle est très simple. Quand je suis majoritaire, j'applique tout mon programme. Et j'essaye d'être le plus fiable et le plus cohérent possible, ce que j'ai toujours été depuis 8 ans que je suis premier secrétaire. Ensuite, si je ne suis pas majoritaire, j'essaie d'obtenir le maximum. Ce que j'ai obtenu l'an passé, c'était de revenir d'abord sur le musée des horreurs, qui était le doublon des franchises médicales, l'entrée dans l'impôt sur le revenu de toute une série de salariés, le fait qu'on ait toute une série de baisses d'indexation sur les retraites notamment, obtenu la suspension de la réforme des retraites, obtenu la hausse de la prime d'activité, obtenu le repas à 1 euro pour les étudiants. Voilà les concessions que nous avions obtenues. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas censuré. Nous n'avons pas adopté, mais nous n'avons pas censuré. Donc, quand je suis minoritaire, j'essaie d'obtenir. Et quand je n'obtiens rien, je censure. Et c'est ce qui a été le cas avec Michel Barnier et avec François Bayrou.
Et ça pourrait être à nouveau le cas cette fois-ci.
Et ça pourrait être le cas cette fois-ci encore. Parce qu'il n'y a aucune raison de servir de marche-pied.
Il y a encore une option selon laquelle vous ne censureriez pas ?
Mais il va y avoir un débat. Moi, je souhaite que le débat ait lieu. Je souhaite que nous puissions avoir des arguments à servir aux Françaises et aux Français en leur disant « voilà ce que chacun défend ». Et j'espère même que dans ce débat-là, nous démasquerons l'extrême droite, dont on voit ces jours derniers qu'elle est plus que floue et que c'est très compliqué de savoir exactement ce qu'elle défend. Mais la réalité, c'est que quand on a un débat budgétaire, eh bien, les grandes options, elles sont posées sur la table. Et donc, je souhaite que ce débat ait lieu et qu'à la fin, nous puissions trancher. Mais ce que je vois aussi, c'est que l'an passé, Sébastien Lecornu avait, nouvellement nommé, la force d'imposer à Édouard Philippe, à Gabriel Attal, à Bruno Retailleau, les compromis auxquels nous sommes parvenus. Est-ce que quelqu'un pense aujourd'hui sérieusement que Sébastien Lecornu va pouvoir s'imposer à des candidats à l'élection présidentielle qui ne voudront aucun compromis avec la gauche ?
Vous, c'est pareil. Vous mais non plus, vous ne voudrez aucun
moi j'ai
compromis.
Apolline de Malherbe, j'ai fait la démonstration que je savais aller chercher des compromis et que je savais accepter le fait que
quand c'était pas une année présidentielle.
Mais même dans une année présidentielle, simplement, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont prêts à rien. Déjà, l'an passé, ça a été très compliqué de leur faire admettre, par exemple, la suspension de la réforme des retraites.
Olivier Faure, vous dites...
Aujourd'hui, est-ce qu'il accepterait ? La réponse est non.
Vous dites donc ce qu'il faut, c'est pouvoir effectivement être majoritaire. Et donc, ce que vous voulez, c'est évidemment pas seulement gagner la primaire, mais c'est gagner les élections présidentielle, en tout cas que votre camp gagne l'élection présidentielle. Quand on voit votre place dans les sondages, je suis surprise d'une chose. Je regardais à peu près à la même époque pour l'année, pour l'élection précédente, Anne Hidalgo qui était bien moins bien placée qu'un Raphaël Glucksmann aujourd'hui, vous l'avez quand même laissé passer, vous l'avez quand même laissé y aller. Vous n'avez pas été remettre en cause le fait qu'elle soit la candidate de la gauche. Pourquoi vous y allez cette fois-ci alors que pour une fois, vous en avez un qui est quand même un peu moins mal placé que les dernières années ? Pourquoi vous allez challenger Raphaël Glucksmann ? Pourquoi vous voulez pas que ce soit votre candidat ?
Pourquoi est-ce qu'on fait des élections ?
Ce que je veux dire, c'est que dans la même situation, Anne Hidalgo, alors qu'elle était honnêtement dans les choux, vous l'avez quand même laissé y aller.
La question, non, elle était à 10% de cette période-ci, et donc.
Quand j'ai regardé, elle était à 6,5 à cette période-ci, et elle a fini à 2.
Non, en septembre, elle est encore autour de 10. Et donc, elle était même pas candidate officielle au moment où on se parle, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous pensez désormais que seuls les sondages l'élection, eh bien arrêtons de faire des élections.
En aucun cas, simplement je compare deux situations qui sont parfaitement comparables.
Mais acceptons désormais dans ces cas-là l'idée que...
Vous étiez déjà premier secrétaire du Parti Socialiste.
Vous savez très bien
pourquoi
que...
Vous n'y avez pas été la dernière fois, pourquoi vous y allez cette fois-ci ?
Mais pourquoi vous n'avez pas en souvenir, par exemple, le fait que, Valérie Pécresse, elle était à 18 après son élection dans la primaire. Elle a fini à moins de 5. Vous avez eu des gens comme Éric Zemmour qui sont montés à 17, qui ont fini à 7. Et donc, moi ce que je dis, c'est que tant que l'offre n'est pas connue, forcément, il y a des préjugés, il y a forcément un débat qui maintenant va avoir lieu, et que dans ce débat, chacun aura à se révéler.
Je suis candidat. Dans ces débats, dites-vous d'ailleurs.
Oui, dans ces débats, et ces débats de la primaire, mais même ceux qui viendront après, parce qu'il n'y a pas que la primaire dans la vie. Et donc, moi, je souhaite effectivement que nous puissions développer une offre qui rencontre une demande et que, à la fin, eh bien, effectivement, nous soyons non pas à 5, à 10 ou à 15, mais que nous soyons à 20, parce que c'est peut-être certainement le seuil de qualification de cette présidentielle.
Olivier Faure, plusieurs questions encore. L'une, vous l'évoquiez sur le flou du Rassemblement National et notamment cet accord signé avec Nigel Farage par Jordan Bardella. Comment vous le comprenez ?
C'est l'aveu d'une forme de soumission à des Brexiteurs. Enfin, je ne le comprends pas, en réalité. Comment accepter cette idée folle que désormais, en fait, on ferait le travail des Britanniques pour rapatrier sur notre sol, en fait, des gens qui sont en situation illégale. La réalité, c'est que chacun doit en prendre sa part et je ne vois pas du tout quelle est, en fait, l'idée saugrenue qui est passée par la tête de Jordan Bardella, si ce n'est qu'il a cru avoir un moment de gloire en allant signer avec celui qu'il espère être le prochain Premier ministre britannique. Mais voyez bien que, en fait, ces gens sont perdus, qu'ils ne savent pas... En réalité, il n'y a pas un sujet. En fait, ils font de la politique à l'ancienne, de la com permanente. Et vous voyez bien qu'ils ont été les alliés de l'AFD, ils ne le sont plus, parce qu'ils ont trouvé que c'était des témoins encombrants.
Ils ont rompu en 2014. En même temps, vous rompu quand même.
Oui, je m'en réjouis. En même temps, je vois bien que, en fait, tout ça est totalement factice, que la réalité, c'est qu'ils ont été ensemble, et quand ils ont trouvé que c'était des alliés encombrants, ils s'en sont séparés. Mais je vois aussi qu'aujourd'hui, il y a une montée de l'extrême droite partout en Europe, et que
la
nous devons être au premier rang pour se battre. Et la victoire de l'AFD, effectivement, en Saxe-Anhalt, devrait être pour chacun le moment d'une grande prise de conscience et se dire que ces gens n'ont pas changé en réalité. Quand vous voyez ce que l'AFD propose, il propose que les enfants soient séparés dans les classes, c'est-à-dire qu'on mette d'un côté les bons Allemands, de l'autre côté les enfants handicapés, et puis les enfants des réfugiés du droit d'asile. Et quand vous regardez qu'ils veulent même suspendre le fait que les enfants des écoles aillent dans les camps de concentration pour apprendre leur histoire, et qu'ils veulent en finir avec la repentance parce qu'ils ne veulent plus que le nazisme soit enseigné. Voilà, exactement. Eh bien, effectivement, là, il y a un sujet que chacun devrait saisir, et on devrait même avoir quelques frissons à l'idée qu'en Allemagne, c'est possible. Donc, ne faisons pas en sorte que la contagion vienne de notre propre pays.
Le Porge, au Radour-sur-Glane, sérieusement, qu'est-ce qui vous a pris ?
Écoutez, c'est une maladresse de ma part. J'ai repris, en fait, ce que certains m'ont dit sur place en disant, regardez, je pensais à quoi? Je pensais simplement au paysage de désolation dévastée parce que ces maisons, enfin, il faut imaginer, hein, 183 maisons brûlées dans un village qui en compte 240, je crois. C'est, en fait, une vision d'horreur.
Et mais en 10 ans, déjà, on voit sur votre visage que vous dites, oulala, où est-ce que je vais? Non. Pourquoi vous n'êtes pas tout de suite repris?
Mais j'ai dit, que je crois, enfin, je ne vais pas me citer de mémoire, mais enfin, j'ai dit, si je dois oser. C'est effectivement une maladresse. Il n'y a pas de comparaison possible entre ce qui s'est passé à Oradour, sur les causes d'Oradour et sur les causes du Porge. Simplement, c'était le paysage dévasté que je cherchais à définir. Ce n'était pas très intéressant, ce n'était pas très intelligent de ma part. Et je le regrette, mais évidemment, il n'y a aucun... Enfin, n'imaginez pas un seul instant que je puisse comparer deux situations qui n'ont rien à voir.
Merci Olivier Faure d'avoir répondu à mes questions ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste et candidat à la primaire de la gauche. Il est 8h50 sur RMC et BFM TV.